Bako à Ouagadougou et à Dakar. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Comment combattre les violences faites aux femmes? L'ONU Femmes continue sa campagne. Le Togo veut une meilleure éducation secondaire, notamment pour les filles.
Un des premiers défis, c'est comment faire pour que nous dépassions le cap du primaire et pour que la majorité des filles puissent finir le secondaire et s'aventurer vers l'université.
Nous entendrons Dédé Aoefa Ekwe, la ministre togolaise de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Reportage au Cameroun dans un camp de réfugiés centrafricains. Enfin, le musicien Pape Diouf sera dans notre page culture. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous. En direct de Washington, parlons évidemment de cette dernière nouvelle. Les États-Unis affirment qu'un des chefs de l'armée de résistance du Seigneur s'est rendu auprès des forces américaines présentes dans la région. Le point tout de suite avec Morgane Guiriac.
Washington explique qu'un homme affirmant être Dominique Ongwen s'est rendu en Centrafrique. Des conseillers militaires américains sont présents à RCA pour aider à traquer les chefs de la LRA. La porte-parole du département d'État, Jen Psaki, a expliqué que des efforts étaient en cours pour établir de façon positive et complète son identité. Madame Psaki précise que si cette défection se confirme, elle constituerait un coup majeur contre la structure de commandement de la LRA. La LRA est accusée d'avoir tué et kidnappé des dizaines de milliers de personnes à travers 4 pays africains sur les 30 dernières années. Le groupe avait combattu le gouvernement ougandais pendant 2 décennies avant de se transformer en opérant dans la brousse et attaquant des villages isolés. Selon l'ONU, cette rébellion a tué plus de 100 000 personnes depuis 1987 en Afrique centrale et a enlevé plus de 60 000 enfants. Les États-Unis ont offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant la capture d'Ongwen. Il est recherché par la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ongwen est un des 5 chefs de la LRA recherchés par la CPI, dont Joseph Kony.
En Côte d'Ivoire, les co-accusés de Simone Gbagbo ont commencé à défiler ce mardi à la barre de la cour d'assises d'Abidjan. L'ex-première dame n'était pas présente à l'audience. Conséquence de l'attaque du palais présidentiel gambien le 30 décembre, le président Yahya Jammeh promet de se débarrasser des meneurs jusqu'au dernier. Affirmant avoir été clément lors de précédentes tentatives de coup d'État en 2006 et 2009, Yahya Jammeh indique qu'il ne laissera plus les putschistes condamnés à mort saisir la Cour suprême. Au Burundi, 3 militants du parti au pouvoir ont été abattus dans l'est du pays. Cette spirale de la violence s'installe à 5 mois des élections générales. Un témoin clé de la défense au procès du vice-président kényan, William Ruto, a été retrouvé mort. L'homme d'affaires a été retrouvé dans une rivière à 300 km de la capitale Nairobi. William Ruto, je vous le rappelle, est poursuivi par la Cour pénale internationale pour les violences post-électorales de 2007-2008. Le président en exercice de l'Union africaine estime que l'épidémie d'Ebola est un défi qui va pousser les États de l'Afrique de l'Ouest à s'unir davantage. Le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'exprimait lundi soir depuis Monrovia, où il était en visite et sur le front de la recherche. Le géant américain Johnson & Johnson annonce le début des premiers essais sur l'homme de son potentiel vaccin contre la fièvre hémorragique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique en direct de Washington. Il est 21h04, temps universel. Rentrée parlementaire aux États-Unis, John Boehner a été réélu ce lundi président de la Chambre des représentants. L'aile droite du parti lui reproche pourtant d'avoir accepté de voter un budget 2015 sans l'accompagner de mesures pour contrecarrer les décrets signés par Barack Obama. Violence en Irak, 23 personnes ont été tuées dans 2 attentats-suicides et des affrontements avec les combattants de l'État islamique dans la province d'Al-Anbar. Un attentat-suicide mené par une femme à Istanbul a fait au moins 1 mort et 2 blessés ce mardi. C'est ce qu'indiquent les autorités turques. L'explosion a eu lieu dans un poste de police dans un quartier très fréquenté par les touristes. Le kamikaze est mort dans cet attentat qui n'a pas été immédiatement revendiqué. La recherche du passager du vol 8501 d'Air Asia se poursuit dans des conditions météorologiques difficiles. Mais 2 autres corps ont été repêchés ce mardi. Au 10e jour de l'opération au large nationaux des côtes de Bornéo. 39 corps ont été retrouvés. L'avion, je vous le rappelle, s'est abîmé en mer. C'était le 28 décembre avec 162 personnes à son bord. Et puis en Russie, Alexei Navalny défie les autorités qui l'ont placé en résidence surveillée suite à un procès pour escroquerie. L'opposant russe, condamné à 3 ans et 6 mois de prison avec sursis, a sectionné son bracelet électronique, disant que sa détention est illégale puisqu'il a bénéficié d'un sursis. Dans le même procès, un frère d'Alexei Navalny avait lui écopé de 3 ans et demi de prison ferme. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique en direct de Washington. Tout de suite, vous retrouverez Claire Morin-Gibourg pour la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique, seconde partie de notre dossier sur les violences faites aux femmes. Selon les termes de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, ces violences laissent partout leur empreinte hideuse et atteignent des niveaux inacceptables. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces violences sont exacerbées lors de conflits et de crises humanitaires et ont des conséquences dramatiques pour la santé mentale et physique des victimes. L'ONU Femmes s'est penchée sur ces violences pour tenter de mieux comprendre leurs mécanismes et tenter d'y mettre fin. Le directeur adjoint d'ONU Femmes, Dr Maxime Winato.
Nous avons vu que la plupart des personnes qui se soumettent à des actes de violence ont une certaine ignorance de leurs droits. Quels sont les milieux d'aide qui sont disponibles pour qu'elles puissent se référer? Ce n'est pas forcément aller signaler son mari à la police ou quelque chose comme ça, mais aller dans des milieux de femmes de soutien pour que des idées puissent vous être données pour comment contrer, de façon à ce que vous puissiez apporter une réponse et ne aller dans le système de sécurité que lorsque la violence atteint un niveau inacceptable. C'est vrai que toutes les violences sont inacceptables, mais nous avons aussi formé dans le milieu dans les communautés des femmes qui sont médiatrices. Des femmes qui ont la capacité d'intercéder entre les différents groupes de conflit de façon à ce que la femme soit protégée. Maintenant, dans le milieu de conflit, vous avez bien souvenance de depuis 2012, les crises qu'il y a eu dans le nord du pays, où des groupes extrémistes ont établi dans les zones occupées un règne de violence inacceptable à l'égard des femmes. Nous sommes actuellement en train de panser les plaies. Une chose que nous faisons, par exemple, c'est la compensation des femmes qui sont victimes, la prise en charge de leurs besoins économiques, la réinsertion économique de ces femmes, de façon à ce que la paix au Mali ne puisse se faire sans qu'il y ait justice, que la justice soit rendue aux femmes, que les femmes aussi puissent demander justice et participer au processus de médiation et de recherche de paix. L'un dans l'autre, effectivement, on essaie de soutenir les femmes.
Est-ce que ONU Femmes a pensé à intégrer les cibles elles-mêmes dans ces actions? Au lieu de passer par les ONG qui sont là, qui parlent en leur nom, parce qu'il y a une rupture de communication entre les cibles et puis les personnes qui se disent les prendre en charge.
C'est vrai, je faisais allusion tout à l'heure à des intermédiatrices communautaires. La plupart de nos interventions se déroulent dans les milieux d'origine des femmes. À l'exception de Kidal, aujourd'hui, ONU Femmes intervient en soutien aux organisations, aux bénéficiaires elles-mêmes dans toutes les zones du Mali. Okay. Et donc, ces bénéficiaires s'organisent elles-mêmes. En fait, ce que nous faisons, c'est de l'accompagnement. Vous connaissez bien la bravoure et la détermination des femmes maliennes. Donc, nous accompagnons leurs efforts de façon à ce qu'elles-mêmes se prennent en charge. Les organisations avec lesquelles nous travaillons au niveau de Bamako, soit c'est toujours des organisations, des personnes qui sont déplacées elles-mêmes, qui sont au niveau de Bamako, ou alors du plaidoyer à l'endroit des forces vives de la nation, au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile, etc., pour que les politiques puissent changer. Donc on a une approche double, une approche directe vers les bénéficiaires et une approche aussi au niveau des politiques, de façon à ce que la volonté de l'État puisse se matérialiser concrètement. Comme vous l'avez dit, cette volonté, c'est déjà commencé avec l'adoption des textes internationaux, avec l'adoption des instruments au niveau du Mali pour réprimer ou bien prévenir les actes de violence. Maintenant, il faut concrètement que ça change au niveau de l'appareil de l'État, au niveau de la justice, au niveau de la police, au niveau des hôpitaux, pour qu'un acte de violence puisse être tout de suite prise en charge pour que la victime ne se sente pas abandonnée.
Le docteur Maxime Winato, directeur adjoint d'ONU Femmes. Direction le Togo pour notre dossier pour évoquer l'éducation des jeunes filles. Au Togo, seule une fille sur quatre arrive au bout de ses études dans le secondaire. Conscient du problème, le gouvernement prône la suppression des frais de scolarité des filles dans les écoles primaires et que celles-ci ne payent que la moitié des frais pour leurs études secondaires. Écoutons la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation du Togo, Dédé Aoefa Ekwe.
Nous avons déjà pu enregistrer une augmentation du taux de scolarisation des filles et réduire l'écart au niveau du primaire, puisqu'aujourd'hui, nous en sommes aujourd'hui à plus de 9 filles pour 10 garçons à l'école primaire. Mais il nous reste un défi, puisque nous savons qu'au niveau du secondaire et de l'université, nous avons encore un grand gap. Au niveau du secondaire, on a littéralement 4 filles pour 10 garçons. Nous pensons qu'il faut vite renverser cette tendance. Et donc, un des premiers défis, c'est comment faire pour que nous dépassions le cap du primaire et pour que la majorité des filles puissent finir le secondaire et s'aventurer vers l'université. Le deuxième défi, par rapport à l'éducation des filles, pour nous, évidemment, c'est de nous assurer que le génie scientifique et technique des filles soit totalement capitalisé, puisqu'aujourd'hui, dans nos filières universitaires liées à la science et la technologie, nous avons à peine un tiers des filles qui sont dans ces universités ou ces écoles scientifiques et techniques. Et donc, c'est un défi à relever. C'est pour ça que cette année, nous avons beaucoup mis l'accent sur la sensibilisation et l'accompagnement des filles dans les domaines scientifiques et technologiques. Et donc, nous pensons qu'il nous faut regarder encore de plus près tous les obstacles qui empêchent la fille de développer ses capacités intellectuelles. Nous avons des programmes.
Alors, et pour parler des femmes plus âgées, par exemple, est-ce que vous avez des programmes en particulier, des programmes de formation, d'alphabétisation, etc.?
Oui, écoutez, par rapport à l'alphabétisation, c'est aussi un défi pour nous. Nous avons eu des progrès aussi dans ce domaine. Mais nous ne voulons pas nous asseoir sur nos lauriers parce que nous savons que pendant qu'il y a un homme sur quatre analphabètes dans notre pays, il y a deux femmes sur quatre qui sont analphabètes. Donc nous avons un défi, plus de 50% des femmes sont analphabètes. Alors nous avons des programmes pour alphabétiser les femmes. Ça se fait avec un très bon partenariat avec les organisations de la société civile. Et donc c'est quelque chose que nous sommes en train de faire, mais pour lequel nous avons besoin de plus de financement. Parce que, évidemment, le travail est énorme. Les femmes sont très motivées à apprendre. Elles comprennent l'importance de l'alphabétisation pour elles. Mais, ma foi, les financements ne sont pas faciles à mobiliser. Ce n'est pas aussi facile que mobiliser des financements pour l'école primaire, pour les enfants. Donc, c'est un défi que nous avons. Une grande demande, oui, des femmes sensibilisées, des organisations de la société civile prêtes à travailler, mais des financements limités.
Dédé Aoefa Ekwe, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation du Togo, au micro de Nathalie Barge. Vous êtes bien à l'écoute de Sel Plus sur VOA Afrique et sur le 95.5 FM à Dapaong au Togo sur la radio Courtoisie. Au Cameroun, la situation des réfugiés centrafricains reste difficile. La cohabitation avec les populations locales est tendue et de nombreuses difficultés se posent pour ces réfugiés. Reportage du correspondant de La Voix de l'Amérique, Moki Edwin Kinzeka, relaté par Michel Joseph.
Comme nombre de ses compatriotes, la centrafricaine Gove Nadia s'est réfugiée à Garoua Boulaye, fuyant non seulement la violence, mais aussi la famine dans son pays.
Si c'est pour la nourriture, c'est parce qu'il ne pleut pas, mais s'il pleut là quand même, on va se débrouiller, mais il ne pleut pas là-bas au village. Donc, on se défend comme ça là. Même quand les frontières sont fermées, mais il y a d'autres qui font tout pour arriver ici là. Mais comme ça, on se débrouille avec le travail.
Autre témoignage, celui de Pana Yogo, une femme de 43 ans, mère de 4 enfants.
Mais la guerre, il y a toujours la guerre. Les enfants tuent les enfants de gauche à droite, même les grandes personnes, le viol, ce n'est pas dit. À manger, bah, tu encore trouver avec toute la guerre là. Vous dormez en brousse, c'est si vous trouvez encore de quoi manger, de quoi boire. Il n'y a rien. Les enfants meurent de famille comme ça.
Les réfugiés qui arrivent au Cameroun doivent composer avec de nouvelles difficultés, y compris le ressentiment de la population locale. Ne pouvant plus supporter les conditions de vie dans un camp local du HCR, Nzapaye Lin dit avoir décidé de vendre du pain au marché de Garoua Boulaye pour prendre soin de son mari malade et de ses trois enfants.
Je mange avec quoi? Je cherche mon argent un peu. J'ai refusé, non? Je n'ai pas l'argent. Je vais chercher l'argent un peu. La mairie, on ramasse tout ça, on a cassé ça. Moi-même, je vais manger quoi ici à Cameroun? Le Cameroun, là, c'est fort, ce n'est pas bon. On dérange le refusé chaque jour ici, ce n'est pas bon. La mairie, on dérange chaque jour.
Meka David, un responsable local, a expliqué à la Voix de l'Amérique que les réfugiés centrafricains sont les bienvenus, mais doivent respecter les lois de leur pays d'accueil.
Nous les avons toujours considérés comme des frères, mais normalement, en tant que considérés comme terroristes, c'est très dangereux, il faut toujours s'en méfier. Et on ne sait jamais c'est quoi tomber, en bien ou en mal, parce que celui qui peut être votre frère, votre meilleur ami, peut toujours être votre pire ennemi et vous poignarder sur le dos.
La plupart des réfugiés attendent impatiemment que la paix revienne pour qu'ils puissent rentrer chez eux.
Comment on peut aimer le pays de nos compétences, un peu comme on fait. S'il y a la paix, on va aller. Mais s'il n'y a pas la paix, je suis
désolée. Selon l'ONU, 1 million de personnes ont fui les violences en République centrafricaine et la moitié de la population a besoin d'une assistance alimentaire du fait de la crise.
Découverte du musicien Pape Diouf dans notre page culture aujourd'hui. Artiste-compositeur, Pape Diouf a aussi fondé la maison de production Jololi. Il voudrait que la jeune génération soit beaucoup plus consciente. Pape Diouf.
Un pays ne peut pas développer dans la culture, surtout l'Afrique. La musique, c'est une industrie. Donc, si on met du sérieux, ça peut aller. Et que c'est ce que je déplore à tout moment, c'est que nous, les Africains, nous devions nous unir. Et je pense que si l'Afrique était unie, la musique aurait une très, très, très grande place. Parce que la culture est là. Donc, le style est là. Il y a beaucoup de choses qu'on doit plaquer. Mais bon, malheureusement, ça reste quoi encore? La génération consciente, ça veut tout dire. Parce que nous sommes une jeunesse consciente. Parce que à chaque fois, nous, les hommes de la banlieue, on nous dit que les agresseurs sont dans la banlieue, les voyous, les bandits sont dans la banlieue et que nous luttons contre ça. C'est pour cela que nous montrons un exemple à tout le monde que nous sommes des natifs de la banlieue, mais nous sommes ambitieux, nous voulons quelque chose, nous voulons passer par le développement de notre pays. Le album parle de d'autres choses, je chante sur l'amour, je chante aussi sur l'actualité du pays, surtout il y a un morceau qui s'appelle Salio, donc là je chante pour lutter contre la pédophilie, parce qu'actuellement beaucoup de filles, beaucoup de petites filles sont violées par soi-disant que c'est des félines d'Adara.
Pape Diouf, artiste-compositeur sénégalais. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et à la technique, Issia Kaba, au micro Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Pape Diouf et son single Fanane ou Kaskas. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
I'm gonna make you mine. need the funer long again. The funer boy, 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 the funer boy,